À son retour, Sam trouva le village tout en ébullition. Déjà, outre bien des jeunes garçons, plus d'une centaine de vigoureux hobbits s'étaient assemblés avec des haches, de lourds marteaux, de longs couteaux et de gros bâtons. Et quelques-uns avaient des arcs de chasse. D'autres continuaient d'affluer de fermes plus éloignées. Des villageois avaient allumé un grand feu, histoire d'égayer l'atmosphère, et parce que c'était l'une des choses interdites par le chef. Il brûlait d'un vif éclat dans la nuit tombante. D'autres, sur l'ordre de Mary, étaient occupés à dresser des barrières en travers de la route à chaque extrémité du village. Les connétables, lorsqu'ils arrivèrent à la plus basse, furent abasourdis. Mais dès qu'ils virent de quoi ils retournaient, la plupart retirèrent leurs plumes et se joignirent à la rébellion. Les autres s'éclipsèrent. Sam trouva Frodo et ses amis près du feu, en grande conversation avec le vieux Tom Casbonne, pendant qu'une foule d'admirateurs, tous des gens de Bello, étaient massés autour d'eux pour les observer.
« Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?»
demanda le fermier Casbonne. « Je ne saurais dire avant d'être mieux renseigné, » répondit Frodo. « Combien sont ces bandits ?»«
C'est difficile à dire, » commença Casbonne. « Tantôt ils sont ici, tantôt là. Ils vont et viennent. » Ils peuvent être une cinquantaine dans leur baraque sur le chemin de Hobbitville. Mais ils sortent souvent vadrouiller, voler ou recueillir, comme ils disent. N'empêche qu'il y en a quasiment toujours une vingtaine autour du patron, comme qu'ils l'appellent. Il est à cul-de-sac, où il était. Mais il sort plus jamais de la propriété ces temps-ci. Plus personne l'a vu, en fait, depuis une semaine ou deux. Mais les hommes laissent personne s'approcher.
Hobbitville n'est pas leur seul repère, n'est-ce pas ?
Demanda Pipin.
« Non, c'est bien le pire, » dit Casbonne. « Il y en a pas mal dans le sud, à Fondrelon, et dans le coin du gué de Sarne, à ce que j'entends. Et d'autres qui rôdent dans la pointe au bois, et ils ont des baraques à carrefour. Et puis il y a les troubliettes, comme ils disent, les vieux tunnels entrepôts à grande creusée, qu'ils ont changés en prison pour ceux qui leur tiennent tête. Mais à mon avis, il n'y en a pas plus de 300 dans le comté en tout et pour tout, peut-être moins. On peut les mater si on se tient les coudes. »
« Ont-ils des armes ?» demanda Mary.
« Des fouets, des couteaux et des gourdins, assez pour expédier leur sale besogne. C'est tout ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant, » dit Casbonne. « Mais je parie qu'ils ont autre chose, si on en vient au coup. Il y en a qui ont des arcs, en tout cas. Ils ont tiré un ou deux de nos gens. »
« Et voilà, Frodo, » dit Mary. « Je savais qu'il faudrait nous battre. Et puis bon, ce sont eux qui ont commencé à tuer. »
« Pas tout à fait. » dit Casbonne. En tout cas, pas les tirs. Ce sont les touques qui ont commencé ça. Je veux dire, votre papa, monsieur Pérégrin. Il a jamais rien voulu savoir de ce loto, et ça, dès le départ. Il disait que si quelqu'un voulait jouer au chef à ce moment ici, ce serait le vrai Thine du comté, et pas un parvenu. Et quand loto a envoyé ses hommes, ils n'ont pas pu lui tirer grand-chose. C'est tout combien de la chance. Ils ont ces profonds trous dans les côtes vertes, les grands smioles et tout. Et les bandits peuvent pas leur tomber dessus. Et ils les laissent pas entrer sur leur terre. Sinon, ils les prennent en chasse. Les touques en ont tué 3 qu'ils ont surpris à rôder et à voler. Après ça, les bandits sont devenus plus mauvais. Et ils surveillent le pays de touques d'assez près. Plus personne peut y entrer ou en sortir maintenant.
« Bravo pour les touques !» s'exclama Pipin. « Mais quelqu'un va de nouveau entrer à présent. » « Je m'en vais aux Smiols. Qui vient avec moi à Toquebourg ?»
Pipin partit avec une douzaine de gars sur des poneys.
« À bientôt » cria-t-il. « C'est seulement à 14 milles d'ici à travers champs. Je vous rejoins demain matin avec une armée de touques. »
Mary sonna du cor après eux comme ils s'éloignaient dans l'obscurité grandissante. Les gens poussèrent des acclamations. « Tout de même, » dit Frodo à ceux qui se tenaient près de lui, « je voudrais qu'il n'y ait pas de mort. » Pas même chez les bandits, sauf s'il le faut pour les empêcher de faire du mal à des hobbits.
« D'accord, » dit Mary, « mais la bande de Hobbitville nous fera très bientôt une petite visite, je pense. Ils ne viendront pas pour bavarder. On va essayer d'éviter les débordements, mais il faut se préparer au pire. Or, moi, j'ai un plan. »«
Parfait, » dit Frodo, « prends tes dispositions. »
À cet instant, quelques hobbits que l'on avait dépêchés vers Hobbitville revinrent en courant.
Ils arrivent, dirent-ils, une vingtaine ou plus, mais 2 s'en sont allés vers l'ouest à travers champs.
À Carrefour, sûrement, dit Casbonne. pour aller en chercher d'autres de leur bande. Eh bien, ça fait 15 000 dans chaque direction. On n'a pas à se soucier d'eux pour l'instant. »
Mary alla rapidement donner les ordres. Le fermier Casbonne fit vider la rue, renvoyant tout le monde à l'intérieur, sauf les hobbits plus âgés qui disposaient d'une arme quelconque. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Ils ne tardèrent pas à entendre des voix fortes et bientôt des pas lourds battant la chaussée. Un instant après, une escouade de bandits apparut sur la route. Ils virent la barrière et se mirent à rire. Ils ne pouvaient imaginer que quoi que ce soit dans ce petit pays pût résister à une vingtaine des leurs réunis en bande. Les hobbits ouvrirent la barrière et s'écartèrent.
« Merci !» se moquèrent les hommes. « Maintenant, rentrez vite vous coucher avant de goûter au fouet !»
Puis ils descendirent le long de la rue en criant
« Éteignez ces lumières, rentrez chez vous et restez-y, ou 50 des vôtres iront aux troubliettes pour un an. Rentrez, le patron commence à s'énerver. »
Personne ne fit attention à leurs ordres, mais tandis que passaient les bandits, tous s'approchèrent discrètement pour les suivre. Au centre du village, les hommes trouvèrent le fermier Casbonne, seul, autour du feu, en train de se réchauffer les mains.
« Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous croyez que vous faites ?»
demanda le chef des bandits. Le fermier Casbonne tourna lentement la tête.
« J'allais justement vous poser la question, » dit-il. « Vous n'êtes pas chez vous et personne ne vous veut ici. »« Nous, on vous veut, » dit le chef. « Mort ou vif ? Emmenez-le, les gars, aux troubliettes et donnez-lui une raison de se tenir tranquille. »
Les hommes firent un pas en avant et s'arrêtèrent court. Un grondement de voix s'éleva tout autour d'eux, et soudain, ils s'aperçurent que le fermier Casbonne n'était pas tout seul. Ils étaient encerclés. Dans la pénombre, juste en dehors de la lueur du feu, un anneau de hobbit surgit des ténèbres s'était refermé sur eux. Ils étaient près de 200, tous munis d'une arme quelconque. Mary s'avança.
« Nous nous sommes déjà vus, » dit-il au chef. « Et je vous avais prévenu de ne pas revenir ici. » « Je vous préviens encore, vous êtes en pleine lumière et les archers vous ont à l'œil. Si vous touchez à ce fermier ou à qui que ce soit d'autre, vous serez aussitôt abattu. Déposez toutes les armes en votre possession. »
Le chef regarda autour de lui. Il était pris au piège. Mais il n'avait pas peur, plus maintenant, avec une vingtaine de ses compagnons pour le soutenir. Il connaissait trop peu les hobbits pour comprendre le danger qui le guettait. Il décida stupidement de se battre. Il serait facile de se frayer un chemin.
« Allons les gars »
cria-t-il.
« Rentrez-leur dedans !»
Un long couteau dans la main gauche et un gourdin dans l'autre, il se rua sur l'anneau afin de passer à travers et ainsi regagner Hobbitville. Il voulut porter un coup sauvage à Mary qui se dressait sur son chemin. Il s'écroula avec 4 flèches dans le corps. Ce fut assez pour convaincre les autres de se rendre. Leurs armes leur furent confisquées, et ils furent attachés ensemble et conduits à une baraque qu'ils avaient eux-mêmes construite pour y être emprisonnés, pieds et poings liés, et tenus sous bonne garde. Le corps du chef tué fut traîné à l'écart et enterré.
« C'est presque trop facile, en fin de compte, » dit Casbonne. « Je savais qu'on pouvait les mater, mais il fallait quelqu'un pour nous rallier. Vous êtes revenu juste à temps, monsieur Mary. »
Il y a encore beaucoup à faire, » dit Mary. Si vous avez bien compté, nous n'en avons pas vu le 10e. Mais il fait noir à présent. Je crois que le prochain coup doit attendre à demain. Puis il faudra aller voir le chef.
Pourquoi pas tout de suite ? Dit Sam. Il n'est pas bien plus tard que 6 heures. Et je veux voir mon ancêtre. Savez-vous ce qu'il devient, monsieur Casbonne ?
Il va pas trop bien, ni trop mal, Sam, dit le fermier. Ils ont creusé toute la rue du Jetsac. Et ça lui a fait un sacré choc, le pauvre. Il vit dans une de ces nouvelles maisons que les hommes du chef construisaient, du temps où il faisait autre chose qu'incendier et voler, à moins d'un mille de Bello. Mais il vient par chez nous quand il en a l'occasion, et je vois à ce qu'il soit mieux nourri que d'autres pauvres petits vieux, tout ça en violation des règles, naturellement. Je l'aurais pris chez moi, mais c'était pas permis.
Je vous remercie beaucoup, monsieur Casbonne, et je l'oublierai pas,
dit Sam.
Mais je veux le voir. Ce patron et ce charquin à eux, ils pourraient faire un mauvais coup là-haut avant demain.
« C'est d'accord, Sam, » dit Casbonne. Choisis-toi un ou deux gars et va le porter jusque chez moi. T'auras pas besoin de passer l'eau ni d'approcher le vieux Hobbitville. Mon Jolly va te montrer.
Sam s'en fut. Merry posta des guetteurs autour du village et des gardes aux barrières pour la nuit. Frodo et lui partirent ensuite avec le fermier Casbon. Ils s'assirent avec la famille, bien au chaud dans la cuisine, et les Casbon leur posèrent poliment quelques questions au sujet de leur voyage, sans guère écouter les réponses. Ils étaient beaucoup plus préoccupés par les événements du comté.
« Tout a commencé avec le boutonneux, comme on l'appelle, » dit le fermier Casbon. « Et ça a commencé aussitôt que vous êtes parti, monsieur Frodo. Il avait de drôles d'idées, le boutonneux. On aurait dit qu'il voulait tout avoir pour lui, pour ensuite mener les gens à la baguette. On s'est vite aperçu qu'il possédait déjà bien plus que ce qui était bon pour lui, et il continuait de mettre la main sur un tas de choses, sans qu'on sache d'où lui venait son argent. Des moulins, des germoires et des auberges, et des fermes et des plantations de feuilles. Il avait déjà acheté le moulin de Sablonnier avant d'arriver à Cul-de-sac, apparemment. Naturellement, il a commencé avec un tas de propriétés dans le quartier sud qu'il avait hérité de son père. Il semblerait qu'il vendait beaucoup de notre meilleure feuille qui partait en douce à l'étranger depuis un an ou deux. Mais vers la fin de l'année passée, il s'est mis à envoyer des tonnes de choses, pas seulement de la feuille. Il y a eu des pénuries avec l'hiver qui approchait et tout. Les gens se sont fâchés. Mais il avait sa réponse. Beaucoup d'hommes sont arrivés, des bandits pour la plupart, avec de grands chariots, certains pour emporter la marchandise là-bas au sud, d'autres pour rester. Et il en venait toujours plus. Et avant qu'on ait trop su ce qui nous arrivait, ils s'étaient implantés ici et là aux quatre coins du comté. Ils abattaient les arbres, creusaient, se construisaient des baraques et des maisons tant qu'ils voulaient. Au début, le boutonneux payait pour les biens saisis et les dégâts causés. Mais ils n'ont pas tardé à s'ériger en grands seigneurs et à faire main basse sur tout ce qu'ils voulaient. À ce moment-là, il y a eu un peu de grabuge, mais pas suffisamment. Le vieux Will, le maire, a voulu aller protester à Cul-de-sac, mais il n'y est jamais arrivé. Des bandits lui ont mis la main au collet. Puis ils l'ont emmené et ils l'ont jeté dans un trou à grande creusée, et il y est encore. Et depuis, ça nous amène un peu après le nouvel an, il n'y a plus eu de maire. Et le boutonneux a commencé à se faire appeler le connétable en chef, ou simplement le chef, et il faisait comme il l'entendait. Et s'il y en avait un qui poussait un peu trop, comme qu'il disait, il s'en allait rejoindre Will. Puis ça a été de mal en pis. Il n'y avait plus rien à fumer, sauf pour les hommes. Et le chef qui aimait pas trop la boisson, sauf pour ses hommes, a fermé toutes les auberges. Et tout le reste, sauf les règles, s'est fait de plus en plus rare. Sauf si vous trouviez le moyen de cacher un peu de votre bien avant que les bandits viennent recueillir toutes vos récoltes pour leur juste redistribution, c'est-à-dire tout pour eux et rien pour nous, sauf les restes, disponibles dans les maisons des connétables, à supposer que vous puissiez les digérer. Exécrable. Mais depuis la venue de Charquin, c'est tout bonnement la catastrophe.
Qui est ce Charquin ? Demanda Merry. J'ai entendu ce nom-là dans la bouche d'un des bandits.
Le plus gros bandit du lot, apparemment, répondit Casbon. C'était à la dernière récolte, fin septembre peut-être, qu'on a entendu son nom la première fois. On l'a jamais vu, mais il est à Cul-de-sac. Et maintenant, c'est lui le vrai chef, je suppose. Tous les bandits font ce qu'il dit, et ce qu'il dit surtout, c'est « tailladez, brûlez, détruisez ». Et voilà qu'on en arrive à tuer des gens. Ça n'a pas plus de bon sens que de mauvais. Il coupe des arbres et les laisse pourrir là. Il brûle des maisons sans rien construire à la place. Prenez le moulin de Sablonnier, tiens. Le boutonneux l'a jeté à terre presque aussitôt arrivé à Cul-de-sac. Après, il a fait venir une bande d'hommes crasseux pour en construire un plus grand, tout plein de rouages et de machins pas possibles. Y a que cet imbécile de Ted qui a vu du bon. Et il travaille là-bas à nettoyer les roues pour le compte des hommes, là où son père était meunier et son propre maître. L'idée du boutonneux, soi-disant, était de moudre plus vite. Et il en a d'autres, des moulins. Mais il faut du blé avant de moudre, et le nouveau moulin avait rien de plus à faire que l'ancien. Mais depuis que Charquin est là, ils ont arrêté de moudre du blé. Ils sont toujours à donner du marteau, à nous en fumer, à nous en pester, et on n'a plus une minute de tranquillité à Hobbitville, même la nuit. Et ils déversent leur saleté par exprès. Ils ont souillé tout le cours inférieur de l'eau, et ça descend jusqu'au brandivin. S'ils veulent transformer le comté en désert, ils sont drôlement bien partis. M'étonnerait que cet imbécile de boutonneux soit derrière tout ça. C'est Charquin que je dis.
Exactement, intervint Tom le jeune. Pensez, ils ont même emmené sa vieille maman, cette Lobélia. Et le boutonneux tenait beaucoup à elle, quoiqu'il était peut-être le seul. Ce sont des gens de Hobbitville, ils ont tout vu. Alors elle descend dans le chemin avec son vieux parapluie, et il y a quelques bandits qui montent avec une grosse charrette. « Où est-ce que vous allez ?» qu'elle dit.
« À cul-de-sac, » qu'ils répondent.
« Pourquoi faire ?»
qu'elle demande.
« Construire des baraques pour Charquin, » qu'ils disent.
« Qui vous a permis de faire ça ?»
qu'elle leur dit.
« Charquin, alors ôtez-vous du chemin, vieille pie grièche !»«
Je vais vous en donner, moi, du Charquin, sale voleur, bandit !» qu'elle fait.
Et de brandir son parapluie en s'en prenant au chef, quasiment deux fois plus grand qu'elle.
Alors ils l'ont emmené. Ils l'ont traîné de force jusqu'aux troubliettes à son âge, vous imaginez. Ils en ont pris d'autres et de plus regrettés, mais il faut bien admettre qu'elle a montré plus de courage que la plupart.
Sam surgit au beau milieu de la conversation, arrivant avec son ancêtre. Le vieux Gamgee ne paraissait pas beaucoup plus vieux, mais il était un peu plus sourd.
« Bonsoir, monsieur Bessac, » dit-il. « Vraiment content de vous revoir ici, sain et sauf. Mais j'ai un compte à régler avec vous, façon de parler, si je puis me permettre. Vous auriez jamais dû vendre cul-de-sac, comme je l'ai toujours dit. C'est ça qu'a commencé toute la bisbille. Et pendant que vous vous trimballiez en pays étranger à pourchasser des hommes en noir au haut des montagnes, d'après ce que dit mon Sam, pourquoi faire, il a pas su dire. Ils sont allés creuser la rue du jet-sac et ravager mes pétates.
Je suis profondément navré, monsieur Gamgee, dit Frodo. Mais maintenant que je suis rentré, je vais faire de mon mieux pour me racheter.
Ah ça, vous pourriez pas dire plus joliment,
répondit l'ancêtre.
Monsieur Frodo Bessac est un véritable gentil hobbit. Je l'ai toujours dit, quoi qu'on puisse penser des autres du même nom, sauf votre respect. Et j'espère que mon Sam s'est bien tenu et qu'il vous a donné satisfaction.
Entière satisfaction, monsieur Gamgee, dit Frodo. En fait, si vous pouvez le croire, il est devenu l'un des personnages les plus célèbres de toutes les terres et ses exploits sont chantés partout, d'ici à la mer et au-delà du grand fleuve.
Sam rougit, mais il se tourna vers Frodo avec gratitude car les yeux de Rosie étaient tout brillants et lui souriaient.
« Ça fait beaucoup à craire, »
dit l'ancêtre.
« Mais je vois qu'il a eu de drôles de fréquentations. Où est-ce qu'est passé son gilet ? Je suis pas friand de toute cette quincaillerie, qu'elle fasse de l'usage ou pas.